Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le temps du débat consacré ce samedi à la tech for good. L'appel Tech for Good a été signé lundi 30 novembre, aboutissement d'une initiative lancée en mai 2018 par Emmanuel Macron lorsqu'il invitait à l'Élysée les géants du numérique. 2 ans et demi plus tard, l'appel Tech for Good a été signé donc par 75 grandes entreprises qui assurent de leur engagement à mettre la technologie au service du progrès humain. On notera tout de même l'absence de 2 entreprises de taille. Les Américains Amazon et Apple ont pour l'instant refusé de s'associer à cette initiative, pourtant non contraignante. À ce volet, qu'on pourrait dire éthique, il faut ajouter un volet réglementaire au niveau européen. Le 15 décembre, la Commission devrait présenter le Digital Service Act et le Digital Market Act. Son objectif, mieux définir la responsabilité des plateformes et des réseaux, mais aussi dépoussiérer le droit de la concurrence, empêcher les abus de position dominante et permettre à des alternatives européennes d'émerger. Il y aurait donc un mouvement général vers un meilleur encadrement des entreprises, leur responsabilisation sur des enjeux comme l'environnement, la diversité, le partage de la valeur ou le partage du pouvoir. Et les entreprises dites de la tech en seraient le fer de lance. L'économie de demain sera écologique et sociale ou ne sera pas, disent les uns. Tout ceci n'est qu'un green ou social washing, rétorquent les autres. Mais surtout, la question qui reste entière, c'est de savoir qui dit le good, de quel bien parle-t-on, qui et comment le mesure-t-on. Tech for good, les entreprises peuvent-elles travailler au bien commun? C'est le sujet du temps du débat de ce samedi, à écouter en direct sur France Culture, franceculture.fr et quand vous le souhaitez sur l'application Radio France.
France Culture, le temps du débat du samedi. Raphaël Bourgois.
Tech for good, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire utiliser la technologie pour aider l'humanité, aider la société. Comment on fait pour limiter justement ces dangers que la technologie peut apporter?
Alors je ne sais pas si la tech for good c'est forcément un devoir. En revanche, toutes les entreprises se doivent de se préoccuper de leur impact social, sociétal et environnemental.
Les entreprises du numérique ont un rôle majeur à jouer pour développer des solutions innovantes qui contribuent à la lutte contre le changement climatique et à la préservation de l'environnement.
Nous, c'est vrai que c'est pour ça que chez Épicerie, on a choisi de se reposer sur des commerçants et des artisans. On sait que les clients veulent à la fois bien manger, mais aussi soutenir ces artisans. Donc c'est au service de l'entreprise d'avoir une démarche tech for good et de pouvoir prouver son impact au vis-à-vis de ses consommateurs, vis-à-vis de ses partenaires.
Donc on a créé cette plateforme qui s'appelle stopcovid19.fr qui permettait aux industriels qui étaient capables de fabriquer des masques, des gels hydroalcooliques et d'autres produits qui pouvaient aider à la protection des soignants, de pouvoir les mettre en relation avec les EHPAD et les établissements de santé, les hôpitaux, etc.
Et 3 invités ce soir pour parler de ce sujet. Armand Hatchuel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur en sciences de gestion à Mines Paris Tech, PSL Université, co-responsable de la chaire Théorie de l'entreprise et de la chaire Innovation. Vous êtes également l'auteur, avec vos collègues à Mines Paris Tech, Kevin Levillain, Blanche Ségrestin et Stéphane Vernac, de Entreprise, Responsabilité et Civilisation vers un nouveau cycle du développement durable. C'est aux éditions justement des Presses des Mines. On est également en relation avec Aurélien Acquier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de management on vous entend. Vous êtes le professeur de management à l'école ESCP Business School où vous co-dirigez la chaire ESCP Deloitte en économie circulaire. Vos recherches portent sur le rôle sociétal et politique de l'entreprise en lien avec les enjeux de soutenabilité. Et enfin, ici en studio à Paris, Eva Sadoun, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes entrepreneur, cofondatrice de la plateforme d'investissement dans des projets à impact social et environnemental, Lita.co, et vous êtes la coprésidente du mouvement des entrepreneurs sociaux et du collectif Tech for Good France. Et donc évidemment, nous avons proposé d'intervenir ce soir, et justement ma première question s'adresse à vous, ça va permettre de lancer la discussion. Cet appel signé par Emmanuel Macron et 70 grandes entreprises est donc, comme je le disais, l'aboutissement d'un long processus de 2 ans et demi, mais aussi, on pourrait le dire, d'un changement dans la façon de considérer le rôle social des entreprises. On se souvient de la loi Pacte il y a un an, enfin en 2019, à ce sujet-là justement. Peut-on vraiment attendre des innovations technologiques et des entreprises qui les portent, de résoudre un certain nombre de grandes problématiques sociales et environnementales? De quel good on parle, Eva Sadoun, quand on parle de tech for good?
Alors, la démarche qui a été mise en place par Emmanuel Macron depuis 2 ans, avec comme objectif effectivement de se faire s'engager les acteurs de la tech vers un peu plus de responsabilité. Donc ça se rapprochait effectivement de tout le travail qui avait été fait autour de la loi Pacte avec l'entreprise à mission, suivi du Business Roundtable américain qui avait pour objectif de montrer qu'une entreprise n'avait plus comme unique objectif que de répondre à la rentabilité de ses actionnaires, mais également d'intégrer ses parties prenantes dans son développement et la prise en considération de ses externalités sociales et environnementales. Donc, en fait, le travail qui a été fait depuis 2 ans est intéressant, mais tout du moins pas assez ambitieux. J'étais présente au sommet il y a quelques mois. C'est vrai que quand on entend le dirigeant d'une tech classique ou d'une grosse entreprise française vous parler d'inclusion, de diversité dans la tech ou de résolution des grands enjeux climatiques, on se demande en fait si la question n'est pas effectivement de réguler ces acteurs-là, mais surtout d'écouter ceux en fait qui savent comment réguler ces techs. Donc en fait, ce qui est un peu gênant, c'est le côté un peu corporatiste de tout ça, qui fait qu'on se met d'accord sur des grands principes, mais il y a peu de contraintes au final. Donc nous, quand on parle en fait de tech for good, effectivement, on a co-signé le manifeste parce que c'est un travail qu'on veut développer avec les acteurs de la tech, parce qu'on ne pourra pas faire sans eux, c'est certain, et ça on l'a bien compris. Mais par contre, on veut plus d'exigences. Donc typiquement, que ce soit sur le manifeste tech for good ou sur l'entreprise à mission, on milite pour la mise en place d'un impact score qui prend la forme de Tech for Good score sur la Tech for Good qu'on a présenté à Emmanuel Macron il y a quelques mois, qui a pour objectif en fait d'avoir des indicateurs très concrets, qu'on arrête d'être dans les grands discours, mais qu'on parle concrètement de répartition de la valeur et de la richesse dans l'entreprise, de tous les intrants et sortants environnementaux sur le scope 1, scope 2, scope 3, du réel partage du pouvoir.
Scope 1, scope 2, scope 3.
En fait, c'est les différents niveaux d'impact en fait environnemental d'une entreprise. En fait, quand on se limite parfois au scope 1, ce qui est vraiment la production d'un produit, par exemple de bouteilles, mince, on a une bouteille d'eau ici, mais voilà.
Ah oui, alors Radio France avait pourtant pris l'engagement de se débarrasser des bouteilles en plastique, mais on est encore un petit peu en retard, mais ça va arriver. Donc cette bouteille en plastique.
Donc cette bouteille, en fait, le scope 1, ce serait uniquement la production de cette bouteille. Le scope 2, ce serait tout le transport, etc. Et le scope 3, c'est encore plus sur tous les impacts écologiques que produit, en fait, le fait de consommer cette bouteille. Donc, par exemple, son cycle de vie, est-ce qu'elle va se retrouver dans une décharge ou pas?
Armand Hatchuel, cette loi Pacte, vous la connaissez bien, cette question des entreprises à mission également. On voit d'emblée, hein, quand on pose la question de savoir qui dit le bien justement en la matière, est-ce qu'on peut attendre des entreprises qu'elles aient cette ambition, cet objectif de faire le bien, si vous me passez l'expression, on tombe tout de suite sur cette question de comment on mesure ce bien, quel type d'indicateur on met en place, quel type de fonctionnement on peut mettre en place.
Oui, alors je crois que dans ces questions, il faut peut-être clarifier un certain nombre de choses qui sont différentes. Le mouvement Tech for Good, il est tout à fait intéressant, tout à fait sympathique, et après tout, il ressemble à toute une série de mouvements qui ont déjà existé, les Fab Labs, les Open Source Movements. Mais en fait, ce sont des mouvements dans lesquels il y a une communauté qui s'engage pour développer de nouvelles technologies. Et le good, par exemple, il y a quelques années, c'était ce qu'on appelait bottom of the pyramid, c'est-à-dire faire des produits accessibles aux villageois indiens, aux pays les plus pauvres du monde. Et donc, en fait, on avait des communautés qui se donnaient cet objectif. Là où on change, si vous voulez, d'esprit, et c'est peut-être là où il y a une ambiguïté, c'est lorsqu'on a des entreprises, si vous voulez, qui nous disent qu'elles font une promesse. Et là, on change tout à fait de perspective. Et la question n'est pas simplement quel est le bien que fait une entreprise ou pas, mais c'est quelle est la nature de cet engagement. Et l'esprit de la loi Pacte, si vous voulez, a été de dire, d'abord, organisons l'engagement. Précisons cet engagement, donnons-lui des modalités contraignantes, mais qui peuvent être aussi qui peuvent être volontaires. Et en fait, je crois que dans la discussion, il faut bien séparer un mouvement qui peut être un mouvement d'innovation et de l'autre un mouvement d'engagement. Voilà, si vous voulez, je crois que pour moi, cette distinction permet d'avancer. Et je saluerai avec le plus grand des bonheurs une innovation de Tech for Good qui, par exemple, nous proposerait des techniques de dessalement des eaux extrêmement peu chères, peu polluantes, capables d'être diffusées très largement dans le monde. Mais ce n'est pas la même chose que l'engagement d'un Apple, d'un Amazon ou même d'une tech moyenne qui promettrait, par exemple, de ne faire aucune surveillance, de respecter la liberté privée et évidemment toute une autre série de critères. Je crois que cette distinction, de mon point de vue, clarifie le débat.
Aurélien Acquier, oui, une première distinction donc entre des objets produits pour faire le bien. L'exemple que vient de prendre Arnaud Hatchell, par exemple, de désalinisation des eaux est un exemple intéressant dans le cadre, en plus, du réchauffement climatique. Ou alors des entreprises qui prennent des engagements sociaux, des engagements environnementaux. Ce sont vraiment deux choses différentes. Et même question, finalement, question initiale. Est-ce que véritablement, on peut attendre des entreprises qu'elles prennent ces engagements? Est-ce qu'on a en droit d'attendre d'elles qu'elles fassent le bien?
Alors, moi, je crois que, en fait, ce qui est intéressant derrière le mouvement là, des Tech for Good, c'est de le remettre un petit peu en perspective historique là, et de regarder ce qui s'est passé au cours de ces dernières décennies. Et je crois qu'il y a vraiment une évolution tout à fait significative dans la vision qu'on a de la technologie et la manière dont ça a évolué. C'est-à-dire que la technologie aujourd'hui, le secteur de la tech n'est plus aussi cool qu'il l'était il y a 10 ans. Et maintenant, il faut rajouter « for good », ce qui signifie qu'il y a peut-être des tech for bad. Et c'est une grande nouveauté parce que si on se met 10 ans en arrière, en fait, on n'avait pas du tout cette vision-là. Il y a 10 ans, on était plutôt dans la critique en fait de l'industrie financière et en fait je me souviens particulièrement d'un travail qui avait été fait sur le Inside Job qui décrivait qui était un film qui décrivait les rouages de la crise financière et qui mettait en fait en opposition l'industrie financière et son cynisme avec la Silicon Valley qui était fondamentalement créative et culturellement très très éloignée de la culture de la finance. Et je crois que 10 ans plus tard, l'image des grands acteurs de la tech s'est considérablement détériorée, c'est-à-dire qu'il y a eu les débats sur la taxation du numérique, la gestion des données individuelles, la problématique du traçage, l'influence des algorithmes sur nos démocraties, et puis le scandale Cambridge Analytica qui sont passés par là. Et en fait, il me semble qu'aujourd'hui, on est dans une situation où il y a beaucoup plus de méfiance en fait à l'égard des technologies, et donc les acteurs doivent s'engager vis-à-vis du bien commun.
Et
en
fait, vous direz que c'est un engagement de façade.
C'est des grands acteurs qui... En fait, ce que je vois, moi, c'est qu'en fait, les grands acteurs du numérique découvrent aujourd'hui le concept de responsabilité sociale de l'entreprise. Et c'est aussi lié au fait que ces acteurs du numérique, ils sont devenus vraiment des acteurs tout à fait moteurs en très peu de temps du capitalisme mondial, quoi. C'est-à-dire qu'en 2008, aucun des GAFA, si on exclut Microsoft, ne faisait partie des 15 plus grosses capitalisations mondiales.
Donc Google, Microsoft, Apple, Facebook était en 5e
position. Voilà, c'est ça, Google, Apple, Facebook et Amazon. Et aujourd'hui, si on prend les 15 premières capitalisations, il y en a plus de la moitié qui sont des acteurs de la technologie. Et donc Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, c'est ça aujourd'hui les plus grandes capitalisations mondiales. Et donc là, il y a une vraie révolution aussi dans le pouvoir de ces acteurs-là et du coup une demande sociale pour qu'ils intègrent des problématiques de responsabilité sociale.
Alors, je voudrais entendre la réponse de...
De manière...
Je voudrais entendre la réponse d'Eva Sadoun, pardon, hein, je rappelle que vous êtes évidemment, crise sanitaire oblige à distance Aurélien Acquier ainsi que Armand Hatchell, et donc forcément toujours la circulation de la parole n'est pas aussi fluide qu'on le voudrait, mais Eva Sadoun, je voudrais vous entendre sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire notamment le rappel par Aurélien Acquier du contexte qui est le nôtre aujourd'hui. C'est vrai que les entreprises dites de la tech, les entreprises du numérique ont beaucoup été pointées du doigt ces derniers temps pour les impacts négatifs qu'ils pouvaient avoir sur la démocratie, qui pouvait avoir évidemment par l'évasion fiscale, qui pouvait avoir même d'un point de vue environnemental, puisque ces derniers temps, on a beaucoup parlé de l'impact environnemental aussi du numérique. On pensait qu'envoyer un mail, ça n'avait pas d'impact. Et ben en fait, ça produit une certaine quantité de CO2. Et donc, forcément, il y a cette suspicion de voir ces entreprises finalement faire ce qu'on appelle du greenwashing ou du social washing, c'est-à-dire se racheter une virginité en quelque sorte en signant des accords comme ceux-ci qui sont en plus contraignant.
En fait, ce qui nous donne envie de parler de social et greenwashing, c'est surtout qu'on se demande quel est l'objectif de ces techs. Et c'est très intéressant que la personne avant moi ait parlé de lien entre la crise sur l'industrie financière et maintenant la crise qu'on a de méfiance vis-à-vis de la tech for good. Vis-à-vis de la tech, pardon. Et je pense que c'est exactement la même. En fait, finalement, les dirigeants des techs de la Silicon Valley étaient effectivement des utopistes, créateurs, libertaires, qui ne voulaient pas justement, qui ne croyaient pas en pouvoir de l'État et en pouvoir des entreprises, et qui ont voulu créer des solutions, qui se sont malheureusement, il y a un livre très intéressant, le nom m'échappe, qui se sont justement fait envahir par les fonds d'investissement. par le milieu financier, auquel ils s'opposaient très fortement avant, et qui a complètement transformé le paradigme de leur technologie, qui les a mis dans une logique en fait d'hypercroissance, de réflexion autour de métriques uniques, qui a fait qu'ils ont dû optimiser ces métriques d'évaluation en fait de leur activité, qu'ils ont dû être surpuissants, qu'ils ont dû passer des partenariats avec des acteurs qui n'étaient pas forcément ceux avec qui ils le voulaient, qu'ils ont dû se développer tellement rapidement qu'ils n'ont pas pu maîtriser leurs intrants et sortants environnementaux, qu'ils ont dû effectivement utiliser la ressource humaine comme une simple ressource sans vraiment se préoccuper de maintien et de la pérennité des emplois. Et je pense qu'en fait la crise du secteur financier et la crise de la tech, c'est vraiment la même, et que si on veut transformer la tech et si on veut être un peu moins méfiant, il faut s'intéresser en fait à la raison de cette méfiance là et pour moi c'est la méfiance qu'on a en fait vis-à-vis des actionnaires, qui en fait, même si on veut mettre en place des transitions, des innovations, même si on veut créer, ils sont toujours là à nous rappeler que le culte du bénéfice par action, qui était notamment un exemple qu'on peut voir dans le cas de l'entreprise Danone, où en fait on se rend compte que la tech ou les entreprises classiques, même quand elles ont envie de s'engager, l'actionnaire est là pour leur rappeler que leur rôle premier, c'est de donner de la rentabilité.
Oui, Danone qui est la première entreprise du CAC 40 justement à être une entreprise à mission, mais qui récemment a annoncé un plan de licenciement de 2000 personnes. Personne, Armand Hatchuel, vous voulez répondre peut-être?
Oui, bien sûr. Mais d'abord, je voudrais constater que nous faisons une relation entre crise de la tech et Madame Sadoun vient de le faire et crise générale de la responsabilité des entreprises. Et là, je crois que c'était le diagnostic quand même. C'était le grand diagnostic de 2017 qui a été repris en 2018 et consolidé par le rapport Nota Sénart et qui a donné naissance à la loi Pacte. Et je crois qu'il faut qu'on en reparle parce que c'est une première mondiale quand même. Et même si on ne peut pas immédiatement demander à Apple America de se transformer en entreprise à mission, je voudrais quand même rappeler que le modèle de l'entreprise à mission, c'est un modèle qui est d'une certaine façon agnostique sur la définition du bien, mais qui au contraire est extrêmement exigeant sur la nature de l'engagement, puisqu'il va produire deux contrôles, ce qu'on appelle un double contrôle. Et on voit bien, si vous voulez, que le problème général, c'est celui de la crédibilité des entreprises. Et pourquoi on ne les croit pas? C'est pas parce qu'elles mentent, c'est tout simplement parce qu'elles sont soumises à des pressions, effectivement des pressions tout à fait considérables, qui font qu'à un moment donné, la position d'un dirigeant peut évoluer. Les plus belles intentions du monde font que il va devoir évoluer à un moment donné compte tenu de la situation. Et le cas Danone me semble pas si il est utilisé pour montrer les limites de l'entreprise à mission. Si on regarde de très près, on peut même dire l'inverse. C'est parce que Danone est une entreprise à mission que l'annonce d'une suppression d'emplois est tout à fait, quand on compare dans une situation de crise absolument gravissime, a fait quand même que, d'une certaine façon, M. Emmanuel Faber s'est trouvé soumis, interpellé. Et c'est bien ça. Quel est le rôle d'un engagement? Le rôle d'un engagement, c'est que la société puisse vous interpeller jusqu'au moment où ça va jusqu'à la justice qui vous interpelle. Mais le rôle de l'entreprise à mission me semble quand même apporter une réponse tout à fait à la fois juridique, pratique, philosophiquement intelligente, parce que on pose toujours la question, mais qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que ce fameux good? Supposons même qu'on ait un critère universel du good. Allez, le CO2, l'émission de CO2. Mais après tout, une entreprise va choisir un chemin pour répondre à cette question du CO2, de la réduction des émissions. Ce qui nous intéresse, c'est pas que le critère soit universel, qu'on ait reconnu que c'est le bien universel. Ce qui nous intéresse, c'est l'effectivité de la méthode. C'est que ça s'est bien passé comme ça, comme c'est décrit. Et c'est là où on revient au contrôle. L'histoire des entreprises, c'est l'histoire de la construction des méthodes de contrôle. Et je crois que si Tech for Good, si vous voulez, d'une certaine façon, on veut passer d'un modèle tout à fait acceptable, hein, d'un modèle d'un collectif d'innovation à un modèle d'entreprise responsable, ben voilà, la loi lui offre la possibilité aujourd'hui aux entreprises du Tech for Good de devenir entreprise à mission. Et je crois que là, elles réuniront l'innovation et la crédibilité. Enfin, je soumets cela au débat.
Aurélien Acquier, est-ce que vous êtes d'accord à ce que vient de dire Armand Hatchuel? Et quelle est la spécificité des entreprises de la tech, comme on dit, des entreprises numériques, selon vous, dans ce débat sur la responsabilité sociale des entreprises, qui est évidemment plus large?
Alors, moi, je suis évidemment tout à fait d'accord avec le point clé, qui est de dire que si l'entreprise s'engage sur le bien commun, il faut qu'elle se dote aussi de dispositifs de gouvernance pour qu'on puisse discuter démocratiquement de ce bien commun. Parce que si on ne le fait pas, en fait, le risque, c'est que l'entreprise définisse toute seule ce qu'elle entend par le bien commun. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde la manière dont on s'est fait dans le secteur du tech for good, comment est-ce qu'on définit ce bien commun? Vous en parliez là au début de l'émission. Il y a une grille en fait qui est très utilisée, c'est les objectifs de développement durable qui ont été énoncés par l'ONU en septembre 2015. Et donc 17 objectifs de développement durable qui vont de l'accès à l'alimentation, au progrès par l'innovation, à la maintien de la biodiversité marine, terrestre, la lutte contre le changement climatique ou la lutte contre la pauvreté, quoi. Voilà, tout ça, c'est des objectifs différents qui font partie des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Bon, le problème, c'est que 17 objectifs de développement durable, c'est autant de visions et de critères pour définir le bien commun. Et toute la difficulté, évidemment, c'est de savoir comment on priorise ces questions-là. Et c'est vrai que si on laisse l'entreprise définir sa contribution au bien commun, tout entrepreneur un petit peu sensé, toute entreprise un petit peu sensée va identifier des contributions au bien commun. À partir du moment où elle met une innovation sur le marché, où il y a des clients, etc., c'est parce qu'elle répond à un besoin social, quoi, quelque part. Mais si on la laisse seule à faire ça, ben en fait on peut se retrouver devant des situations un petit peu compliquées. Alors un exemple tout à fait concret, c'est l'entreprise Monsanto, qui est une entreprise qui historiquement a été extrêmement controversée sur ses impacts sur la biodiversité, etc., avait vraiment pour prêter une grande attention à montrer qu'en fait elle contribuait à 9 des 17 objectifs de développement durable. Et donc, on pouvait considérer que Monsanto, c'était un acteur du tech for good, quoi. Donc là, il me semble on voit bien hein, l'enjeu démocratique, en fait, que cette question soulève. C'est-à-dire, si on souhaite réorienter le développement technologique pour qu'ils contribuent au bien commun, ben il faut qu'on pense, à côté de ça, des dispositifs de contrôle démocratique, des dispositifs de dialogue. Et c'est vrai que l'entreprise à mission peut être un dispositif, et il y en a beaucoup d'autres, sans doute, qui restent à inventer.
On essaiera d'en lister quelques-uns tout à l'heure, mais je veux entendre Eva Sadoun vous répondre, puisque c'est vrai que quand on va sur le site de Tech for Good, on arrive très très vite hein, à cette histoire, à ces 17 objectifs ODD, objectifs de développement durable.
Oui, parce que Tech for Good s'inscrit dans un contexte international, vu que l'objectif d'une technologie, enfin, le mouvement Tech for Good peut être parfois un peu solutionniste, parce que leur vision, c'est de résoudre avec la tech des grands enjeux du développement durable. Donc, c'est le framework, sur lequel on s'est tous attelés. Sauf qu'en fait, on y a vu les limites très rapidement. C'est vrai que les objectifs du développement durable sont un bon moyen d'inscrire sa mission dans un objectif ou un sous-objectif, parce qu'il faut être sûr qu'on ait vraiment une mission qui contribue au bien commun, et pour cela c'est plutôt pertinent. Par contre, ce framework n'est pas du tout pertinent en ce qui s'agit des modes de fonctionnement de l'entreprise, parce qu'en fait de considérer que l'entreprise elle peut avoir une contribution au bien commun, c'est pour nous pas la place que l'entreprise doit avoir dans le siècle suivant, parce que l'entreprise on la considère comme non neutre. En fait, c'est elle qui produit, qui crée de l'emploi, c'est elle qui a un impact très fort sur la société civile, c'est elle qui est la principale responsable de la destruction environnementale et du réchauffement climatique. Donc on ne peut pas dire que parce que l'entreprise des fossiles, par exemple, décide de s'engager sur la diversité ou sur la parité homme-femme dans ses instances de décision, elle a eu sa contribution bien commun. Non. En fait, elle doit maîtriser ses impacts environnementaux les plus importants. Parce que là, on sait très bien que il n'y a plus trop de débat, en fait. On vit une crise sociale tellement forte et on est tellement exposé à un réchauffement climatique tellement important qui fait qu'en 2070, il y aura 3 milliards de personnes qui vivront dans le Sahara, qu'on ne peut pas, en fait, que s'atteler à une contribution. Donc, c'est pourquoi On a voulu travailler avec Tech for Good justement sur ces modes opératoires. Et on pense que c'est l'entreprise à mission qui doit s'inspirer de l'économie sociale et solidaire et de l'entreprise solidaire d'utilité sociale, qui en fait avait déjà réfléchi sur ça depuis déjà très longtemps. Donc moi, mon entreprise qui emploie 50 personnes est ESUS. Et en fait, c'est ce qui veut dire entreprise solidaire d'utilité sociale, ce qui veut dire qu'elle a l'utilité sociale en son objet, sa mission, qu'elle peut avoir un contrôle également. Mais en plus de ça, qu'elle partage sa valeur. Donc j'ai des écarts de rémunération qui ne peuvent pas aller entre plus de 1 à 5 ou 1 à 7. Bon, moi, je suis à 1 à 4 encore dans notre entreprise, mais on peut aller jusqu'à 1 à 7. Qu'on doit avoir une gouvernance participative et démocratique et la mise en place de comités de parties prenantes. Donc, il y avait déjà cette économie avant. On a voulu faire l'entreprise à mission pour assouplir le statut et permettre à des entreprises qui avaient des écarts de rémunération déjà trop forts de plutôt s'inscrire sur une mission. Mais je pense que l'entreprise à mission va devoir s'inspirer notamment de l'impact score et de cette vision un peu transversale 360 de l'ensemble de ses impacts sur social, environnemental, partage de la valeur et partage du pouvoir.
Arma Hatchell, on l'entend, hein. Qui garde les gardiens? C'est toujours la même question. Cette question de savoir comment est-ce qu'on mesure les choses, elle est centrale dans le débat qui nous occupe ce soir.
Mais, si vous voulez, là à nouveau, l'histoire est éclairante. Si vous voulez, prenons une question toute bête. La question des comptes. On a d'abord, lorsqu'on a créé les sociétés anonymes, s'est posé immédiatement un problème qui était la sincérité des comptes. Ce qu'on a fait d'abord, c'est de créer l'engagement, c'est-à-dire de créer un cadre dans la société qui a imposé de remettre des comptes. Et ça fait à peu près maintenant presque 2 siècles que nous continuons à discuter de qu'est-ce que le bon compte, qu'est-ce que la bonne comptabilité, et le débat est encore ouvert. Et je crois que il faut pas confondre le dispositif d'engagement et le référentiel qui va servir à l'engagement. Ce que disait Eva Sadoun, c'est il existe des référentiels. Alors, elle a cité un des référentiels de l'économie sociale et solidaire. Oui, bien sûr, mais une des grosses difficultés, c'est que les référentiels sont souvent, si vous voulez, dépendants de l'activité. C'est-à-dire qu'il y a des activités sur lesquelles vous allez absolument avoir à vous soucier d'une question de CO2, mais d'autres activités, pas du tout. Et même, très souvent, comme les entreprises innovent, et c'est bien d'innovation dont on parle, comme elles innovent, elles créent des problèmes inattendus. Et donc, il est tout à fait quand même intéressant qu'une entreprise se dote sur son activité, sur les caractéristiques de son activité. Pour prendre juste un exemple, imaginez les premières activités nucléaires. Heureusement, quand même, que l'entreprise s'est préoccupée de la question de la radiation. Donc, on a besoin d'abord d'un dispositif d'engagement, et c'est pour cela, si vous voulez, que le cadre de la société à mission, je ne le défends pas parce que c'est ce qu'on y a travaillé, mais c'est parce que quand on regarde juridiquement parlant, et je suis sûr que Madame Sadoun sait qu'aujourd'hui, y compris des mutuelles et des coopératives rejoignent ce cadre. Mais si il existe d'autres cadres juridiques qui permettent le contrôle de cet engagement, eh bien, ils sont les bienvenus. Il y aura sûrement une loi Pacte 2, Pacte 3, Pacte 4. Mais par contre, la philosophie doit rester la même. Et vous voyez que cette philosophie, c'est une entreprise ne peut pas faire de promesses sans mettre en place, comme le disait Aurélien Acquier, un dispositif de gouvernance, un dispositif de discussion ouvert, une certaine publicité des débats sur le sujet pour que nous puissions en rediscuter. Mais quel est le référentiel du bien commun dont on peut penser qu'il serait instable au point d'être vrai encore dans 20 ans? Ce n'est pas sérieux. Donc, commençons d'abord par faire cette transformation de la responsabilité des entreprises. Introduisons des référentiels, il y en a déjà beaucoup. Vous avez cité, Madame Sadoun a cité un référentiel sur l'écart de salaire, tout à fait intéressant. Là, je suis sûr que ça devrait intéresser beaucoup d'entreprises à mission. Il peut y avoir d'autres critères. Mais nous n'en sommes pas aujourd'hui à dire qu'il existe un référentiel universel du bien commun qui s'appliquerait depuis la petite PME d'une activité artisanale jusqu'au GAFA. Donc voilà, il me semble, l'esprit dans lequel on pourrait avancer ensemble. Et encore une fois, la France n'est... Je ne sais pas si le président de la République a rappelé à ses invités l'existence de la loi Pacte, mais la France a fait un énorme pas avec cette loi.
France Culture, le temps du débat du samedi. Raphaël Bourgois.
C'est d'éprouver sans cesse un désir d'expansion et sans limite, tandis qu'il vit dans un monde rempli, lui, de limites physiques et cartésiennes. Si l'on s'en réfère à la pensée nihiliste et aux philosophes tragiques, nous parvenons mieux à comprendre l'insignifiance vertigineuse de nos existences. Et par ce fait, le vide de nos vies nous apparaît alors évident, sans être ni optimiste ni pessimiste, mais si l'on se positionne en tant que philosophe cynique pur. Et c'est par conséquent par l'usage d'artifices que nous arrivons à nous déconnecter de cette réalité pascalienne qui nous effraie tant. Mais tout cela reste de l'ordre du concept et demeure incertain.
Il est 18h41 sur France Culture. Vous écoutez donc le temps du débat du samedi. Notre question ce soir, Tech for Good, les entreprises peuvent-elles travailler au bien commun? Et on en discute avec Armand Hatchuel, qui est professeur en sciences de gestion à Mines Paris Tech PSL Université, Aurélien Hacquier, qui est professeur de management à ESCP Business School, et Eva Sadoun, qui est entrepreneur, cofondatrice de la plateforme d'investissement dans des projets à impact social et environnemental LITA, et qui est également coprésidente du mouvement des entrepreneurs sociaux et du collectif Tech for Good France. Alors, on a entendu juste avant cette pause musicale, La Femme, c'est le tout dernier titre, Disconnection. On l'a entendu avec cet humour propre à ce groupe. On parlait avec Armand Hatchuel, Eva Sadoun, des référentiels communs, de l'impossibilité finalement d'un référentiel commun universel, et que donc tout doit être fait en quelque sorte, entreprise par entreprise, branche par branche. Vous êtes d'accord ?
Non, je suis pas vraiment d'accord. Parce que, en fait, je considère qu'il y a quand même des grands enjeux de société qui perdurent et qui sont, en fait, universels et transcendants. La question climatique, la question des écarts de rémunération dans la société, la question du respect de la biodiversité. Enfin, tout ça, pour moi, c'est des choses que partage chacune des entreprises. Chacune des entreprises peut avoir un impact sur ces faits-là. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, l'Impact Score, qu'on a monté, qui réfléchit sur ces quatre piliers, social, écologie, partage de valeur, partage de pouvoir, il est en fait utilisable pour tout type d'entreprise qui ensuite, en fait, sur 17 indicateurs, en fait, va se positionner sur ces différents aspects. Du coup, ces écarts de rémunération, est-ce qu'elle va avoir une politique de recrutement inclusive, est-ce que ses emplois vont être pérennes, est-ce qu'elle va avoir des dispositifs de formation pour ses salariés, etc. Son index également homme-femme, c'est très intéressant l'index. On parle quand même de quelque chose qui a été voté dans le droit du travail déjà depuis très longtemps, qui est une obligation d'avoir une égalité salariale entre les hommes et les femmes, qui doit être une ambition. Et malgré tout, là, dans le cadre du plan de relance, sur le plan d'investissement d'avenir, on a demandé à ce que cet index soit demandé obligatoire, soit une contrepartie obligatoire si on reçoit de l'argent du plan de relance. On parle pas d'une grande mesure transformatrice pour l'entreprise, on parle de quelque chose quand même d'assez évident. Et ça a été refusé, en fait, sous prétexte, et c'est là que c'est intéressant de s'intéresser à qu'est-ce qui bloque en fait dans les institutions, sous prétexte qu'en fait ça ne répond pas aux critères d'excellence d'innovation du plan d'innovation d'avenir et du plan de relance. Donc en fait on a besoin, et ça va en lien je pense avec même ce qui s'est passé au niveau européen sur le projet de loi, on a besoin de redéfinir nos grands objectifs. Je ne vois pas ce qu'est l'excellence ou l'innovation de rupture si elle ne produit pas une vertu sociale et écologique. C'est pareil sur le projet de loi européen, il est pertinent, mais c'est vraiment un projet de l'Europe libérale. Quoi.
Donc
c'est
le Digital Service Act et le Digital Market Act qui doivent être présentés la semaine prochaine par la Commission européenne.
Tout à fait. C'est essentiellement un projet qui protège la concurrence des entreprises européennes. Donc en fait, on est encore dans le même récit économique concurrentiel et on n'arrive pas à s'inscrire dans cette vision de l'économie qui produit une valeur sociale et écologique, et on a besoin de redéfinir ces critères.
Aurélien Hacquier.
Je voudrais rebondir sur...
Je vous donnerai la parole juste après, Armand Hatchuel, pardon, je vais juste entendre Aurélien Hacquier qu'on apporte.
Il y a une grande confusion dans ce qu'on vient d'entendre.
D'accord. Alors d'abord Aurélien Hacquier, voilà. Puis après vous nous expliquerez... Vous nous expliquerez la confusion, mais je voudrais entendre Aurélien Hacquier qu'on n'a pas entendu depuis longtemps.
Alors moi je voudrais effectivement rebondir sur les propos d'Eva, que je pense qu'elle soulève un point fondamental, qui est le fait qu'on est aussi aujourd'hui confronté à une véritable crise du progrès et que on a besoin de refonder notre vision du progrès. Et en fait, il va falloir qu'on reconçoive notre vision du progrès et autour de la notion d'anthropocène, cette notion qui pointe en fait le rôle structurant des humains dans la déstabilisation de notre propre environnement en fait. Et elle a souligné très justement les enjeux climat, les enjeux biodiversité, qui vont devenir des questions vraiment existentielles, hein, pour nos sociétés. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment à un moment charnière, qui est aussi une crise de la modernité, quelque part, où, à mesure que l'on se heurte aux limites planétaires, s'installe un rapport très ambivalent et un peu schizophrène à l'innovation. C'est-à-dire, d'un côté, on sait qu'on a besoin d'innovation pour inventer de nouvelles solutions, qu'on dépend aussi de technologies dans notre qualité de vie, qu'il serait très très difficile de détechnologiser le monde. Mais d'un autre côté, on voit aussi que l'innovation permanente, l'accélération de la consommation, des rythmes de développement des produits, fait peser un poids de plus en plus lourd sur nos écosystèmes, quoi, et nous met en danger in fine. Et donc, par exemple, aujourd'hui, on sait que, ça c'est des statistiques, hein, on vend 1,5 milliard de smartphones chaque année, qui consomment chacun entre 40 et 60 kilos de minerais à extraire. On sait que la croissance des ventes de SUV dans l'industrie automobile peut à elle seule mettre en péril tous les objectifs de contenir le réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés. Donc on est vraiment dans un moment de crise par rapport au progrès, et je crois que l'enjeu, c'est de quand même repenser aujourd'hui ces questions-là pour faire atterrir nos systèmes économiques, quoi, pour reprendre la métaphore de la tour, de l'idée
de Bruno Latour, le sociologue, faire atterrir. Voilà, où atterrir, c'était un livre de Bruno Latour qu'il a publié aux éditions de La Découverte. Armand Hatchell,
je pense que c'est ça l'horizon, en fait. Voilà, pour terminer, je pense que c'est ça un peu l'horizon de l'innovation qui nous attend, en fait. C'est d'orienter des processus technologiques et d'innovation pour faire atterrir nos systèmes économiques et les mettre en harmonie avec nos systèmes naturels et puis nos sociétés, quoi.
Armand Hatchell, vous voulez réagir à ce que vous estimez être une confusion dévastatrice. Vous avez la parole.
Oui. Mais écoutez, parce que tout simplement, et je crois qu'elle sera d'accord avec moi, en fait, elle pense à des lois. Et elle a tout à fait raison. Chaque citoyen peut demander à ce qu'il y ait une loi, par exemple, sur la réduction des inégalités de salaire. Il y a des lois aujourd'hui sur la discrimination, il y a des systèmes de contrôle par l'État. Et évidemment, s'il existe un bien universel, il devient évidemment d'intérêt général. Et s'il est d'intérêt général, à ce moment-là, c'est à la loi de parler. Il y a bien plus d'un siècle, on a créé une loi sur les accidents du travail. C'est probablement la première loi de responsabilité des entreprises, parce que l'innovation, les machines avaient créé des dangers. Et donc on a postulé, mais on n'a pas postulé qu'il fallait faire des machines à l'avance. On n'a pas donné tous les critères de sûreté à l'avance, tous les critères de sûreté des machines. On a postulé un système d'assurance qui permettait de couvrir et de se solidariser avec l'accident du travail. Donc je crois qu'il faut bien se dire que, d'une part, s'il y a des normes universelles, c'est à la loi de parler. En revanche, on sait aussi que les entreprises, et c'est bien cela qui nous a réunis, c'est qu'elles innovent. Comme elles innovent, il faut qu'elles se donnent des missions qui correspondent aux impacts négatifs et aux impacts positifs du type d'innovation qu'elles développent. C'est ça ce qu'on attend d'une entreprise. Et c'est là où le dispositif de responsabilisation des entreprises est important. Et c'est aussi là où elles ont une autonomie de désignation, si vous voulez, des intérêts collectifs qu'elles veulent poursuivre. Donc les deux mouvements sont tout à fait distincts, et il faut pas les
distincts et compatibles, selon vous.
Sinon,
ils sont
absolument pas incompatibles, ils marchent ensemble.
Oui, compatibles.
Et même, il y a même une logique. Ils sont totalement, non seulement ils sont compatibles, mais l'histoire nous a montré que certains des développements d'entreprises qui étaient suffisamment intéressants pour que tout le monde considère qu'on en avait besoin sont devenus la norme publique. Écoutez, le chemin de fer, c'est une innovation qui va devenir une norme de nationale. Le téléphone, aujourd'hui, quand on parle de zone blanche, c'est bien parce que nous souhaitons que tout le monde dispose d'une connexion. Donc ce lien, si vous voulez, entre la loi qui va définir un intérêt général et des entreprises qui définissent des missions d'intérêt collectif. D'ailleurs, le titre, si vous voulez, du rapport Nota Senner était de ce point de vue-là, du point de vue philosophique, très intéressant. Il disait l'entreprise, un intérêt collectif. Et les intérêts collectifs, c'est pas nécessairement l'intérêt public. Et là, et je pense que cette distinction, c'est elle qui nous relie à l'innovation.
Eh ben, je voulais entendre
précisément.
Je voulais entendre Bassadoun là-dessus. Je voudrais qu'elle puisse vous répondre, puisque vous avez fait un long développement Armand Hatchell, et c'était nécessaire et intéressant. Mais Bassadoun, ça pose la question de savoir encore une fois qui impulse ces inflexions à cette économie, notamment à cette nouvelle économie. Est-ce que ça doit être le marché? Est-ce que ça doit être l'État? Est-ce que ça doit être les citoyens, et qui sont notamment absents de ce dispositif aujourd'hui?
Tout à fait. Non, mais c'est très juste ce que vous venez de dire, parce que effectivement, s'il y avait un cadre réglementaire qui permettait de suffisamment bien encadrer le bien commun, l'entreprise à mission serait un dispositif qui permettrait de contrôler cette contribution au bien commun par entreprise, donc ce serait super. On pense quand même qu'on en est encore très loin de la capacité de l'État à le définir. On l'a vu encore dernièrement avec la nomination de BlackRock à la Commission européenne pour définir les normes environnementales du secteur bancaire.
Donc BlackRock, rappelons-le, qui a un énorme fonds d'investissement américain, et qui, en termes d'éthique, on va dire, n'est pas toujours forcément
très
exemplaire.
C'est le premier investisseur des énergies fossiles, et il a voté à 85% contre les motions climatiques depuis 2015, et c'est lui qui va définir les normes environnementales du secteur bancaire européen. Donc c'est extrêmement compliqué. Mais moi je pense qu'il faut agir à ce niveau-là, qu'il faut agir au niveau européen. Il faut définir une taxonomie verte, c'est-à-dire un cadre réglementaire qui encadre ce qui est vert et ce qui ne l'est pas. Il faut définir une taxonomie liée à la biodiversité, une taxonomie sociale. En fait, c'est les textes européens qui nous permettent de qualifier une activité. Et ensuite, il faut que ces taxonomies-là s'infusent dans l'ensemble des pays pour que le projet de société change. Mais je pense qu'il faut défendre aujourd'hui le renouvellement d'un projet de société. Sinon, on sera incapable, en fait, de faire notre transition. C'est pas juste en mettant des petites réglementations qu'on y arrivera, parce qu'il faut que ça infuse l'ensemble des dispositifs. Et j'ai toujours une citation que j'aime beaucoup de Pierre Charbonnier dans Abondance et Liberté, qui qualifie vraiment bien pour conclure.
Donc Claire Charbonnier, on cite beaucoup d'auteurs de La Découverte ce soir, qui est un philosophe et qui avait publié ce livre de philosophie important, où il interrogeait justement ce lien qu'on a fait historiquement entre la question de l'abondance, du développement, du progrès, et la question de la liberté.
Exactement. Et donc il dit « Sortir des forçages écologiques et décarboner l'économie implique une redéfinition totale de ce qu'est la société, un réarrangement des rapports de domination et d'exploitation, et une requalification des rapports de justice. Ça nous montre bien que c'est tout un projet de société, européen et français, qu'il faut redéfinir pour être capable de faire la transition. »
Aurélien, qui a un mot, parce qu'on arrive au bout malheureusement, et j'aimerais vous entendre sur justement le rôle de la technique dans cette évolution que vient de définir Eva Sadoun, que vient de rappeler Eva Sadoun, et aussi par rapport à ce que vient de dire Armand Hatchell. On a parfois une approche un peu neutre de la technologie comme un outil, un simple outil. Or, il y a aussi une fonction politique. La technologie, elle porte un projet de société en elle-même.
Alors c'est sûr que la technologie n'est pas neutre, et en fait je pense que aussi on est à un moment de l'histoire où il faut relire des auteurs qui ont travaillé sur le rôle de la technologie, et moi je pense que on vit une période où la lecture de Jacques Ellul notamment est tout à fait éclairante sur le rôle de plus en plus important de la technologie, et la manière dont la technologie aussi sort d'un discours purement fonctionnel pour afficher aussi sa contribution au bien commun, à avoir mettre en avant sa dimension politique, etc. Tout ça, c'est des éléments que Jacques Ellul avait bien théorisé en fait déjà il y a plus d'un demi-siècle. Je voudrais aussi moi conclure sur, puisqu'on a beaucoup discuté aussi de comment ces questions-là percutent nos modèles démocratiques, percutent le rôle de l'État, percutent le rôle de l'entreprise. Moi, je pense que c'est pour revenir au début de l'émission où on discutait de l'appel des Tech for Good qui vient d'être fait. Je trouve que cet appel est aussi très intéressant sur la posture de l'État, pour rebondir aussi sur ce que disait Eva à l'instant. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'État passe par une démarche purement volontaire. C'est lui qui convie les acteurs du numérique et les géants du numérique pour faire une déclaration volontaire avec ces acteurs-là et légitimer sur l'idée d'avancer sur une régulation, sur une taxation, etc. On a vraiment l'impression que l'État demande presque la permission aux grands acteurs du numérique de s'engager sur leurs responsabilités sociales avant de prendre des décisions sur des enjeux difficiles de régulation tels que la taxation, le respect des principes de compétition, etc. Et là, je trouve que aussi on voit la montée du pouvoir en fait de ces entreprises du numérique et la transformation du rôle de l'État aujourd'hui, quoi. Donc je pense qu'effectivement on vit dans un paysage où les conditions de régulation qu'on connaissait auparavant, qui était un État régulateur qui a vraiment l'autorité, sont en train de bouger, et ça a des conséquences quand même très très fortes, quoi.
Un mot de conclusion
pour finir juste un point, c'est qu'en fait on a très peu parlé des citoyens aussi dans ce sujet, c'est-à-dire qu'on a tendance à limiter la question à, d'un côté, l'État, de l'autre côté, des entreprises. Moi, je trouve aussi que des initiatives telles que la conférence citoyenne pour le climat ou des mouvements citoyens pointent aussi du doigt la manière dont on peut reconstruire ce bien commun et dont on peut réfléchir à l'idée de bien commun dans ce nouveau paradigme.
Même si voilà, on voit avec la convention des citoyens pour le climat que ça pose un certain nombre de problèmes, notamment dans l'applicabilité. Ensuite, Armand Hatchell, un mot de conclusion très rapidement, pour revenir sur ce qui vient d'être dit.
Je partage, si vous voulez. Je partage tout à fait l'analyse qui consiste à dire que nous devons absolument reprendre l'ensemble des catégories qui définissent ce qu'est la société, qui définissent son rapport au futur. Mais peut-être puis-je me permettre de dire que il y a eu d'abord dans l'histoire de la modernité une distinction, et que c'est sur cette distinction que nous avons travaillé. La modernité, ça a été la séparation entre l'État définissant l'intérêt général et laissant des puissances, à l'époque on n'imaginait pas qu'elles deviendraient très grandes, faire la vie, faire la civilisation. Et aujourd'hui, on se trouve devant une situation qui, de mon point de vue, la grande question philosophique, c'est qu'est-ce que c'est qu'une entreprise ? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un acteur économique ? Peut-on encore accepter même qu'il y ait des acteurs économiques ? Et là, si vous voulez, si on veut faire un peu une espèce de remontée au cours de l'histoire, c'est la question qui a fondé la modernité, c'est-à-dire la séparation, encore une fois, entre l'individu, la liberté d'entreprendre et l'État. Et au fond, en reconstituant aujourd'hui, si vous voulez, une responsabilité des entreprises, des référentiels sociétaux, sociaux, nous sommes en train de sortir d'une modernité qui a pensé que l'économique, en quelque sorte, pouvait être une sphère autonome. Et même la théorie politique elle-même s'en est accommodée d'une certaine façon. C'était au fond assez confortable. Le Covid vient de nous rappeler que non, ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible.
L'État a dû sauver les entreprises et les entreprises vont sauver la société avec le vaccin. Je l'espère, comme tout le monde.
Espérons-le, en effet.
Voilà. Cela nous amène effectivement à un débat qui, je crois, est très intéressant.
Très intéressant, mais que malheureusement, nous ne pourrons pas tenir là, puisqu'il est 18h57 et 30 secondes, mais peut-être qu'on vous réinvitera. Merci beaucoup. Un mot de conclusion, Eva Sadoun. Je vais pas vous demander de me définir l'entreprise en 30 secondes, mais sur ce Tech for Good, vous en espérez quelque chose, malgré tout, de cette inscription par le président de la République de Tech for Good comme objectif?
On espérera que ça permettra d'agir à trois niveaux, effectivement. Au niveau politique, que ça va les rassurer sur le fait que les acteurs de la tech sont capables d'aborder ces enjeux au niveau des acteurs de la tech pour qu'ils mettent en place des choses innovantes, mais nous on les poussera à toujours plus de transparence et du coup avec les citoyens pour être capables aussi en fait d'être nous-mêmes ceux qui seront capables de contrôler. Je pense qu'on est les seuls capables de vraiment contrôler ces acteurs.
Alors voilà, ce sera encore vous me donnez plein d'idées pour les prochaines émissions. Merci beaucoup à la réalisation ce soir du temps du débat du samedi, c'était Vanessa Nadjar, à la prise de son Edouard Rubinstein et Clara Galivelle. Merci à Sam Boutata pour sa collaboration. Lundi dans le temps du débat, Emmanuel Laurentin posera la question: un an de coronavirus, la Chine sort-elle plus forte de la crise? Mais avant cela, le prochain rendez-vous avec un magazine d'actualité, c'est évidemment demain à 11h. L'Esprit public, Émilie Aubry sera encore en direct de l'espace Cardin. Vous pourrez le suivre sur le site du Théâtre de la Ville notamment. Deux questions de VGE à Macron: le centre est-il une illusion? Grande-Bretagne, un perturbateur nommé Johnson. Excellent week-end à toutes et à tous à l'écoute de France Culture.